Salut, c'est David et c'est parti pour un nouvel épisode de C'est pour ma pomme. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pour ma pomme. L'épisode 56, enregistré aujourd'hui le 1er novembre. Je voulais revenir avec vous un peu sur la conférence d'Apple qui a eu lieu il y a deux jours. On a quand même pas mal de conférences d'Apple cet automne. C'est pas tous les ans qu'Apple nous fait deux conférences d'automne. Alors certes, cette année, il y avait quand même pas mal de produits à rafraîchir. Donc pas mal de produits à annoncer, mais bon, ça reste quand même, enfin c'est pas tous les ans qu'ils font deux conférences en automne, donc c'est assez cool, et surtout que là ils ont présenté quand même pas mal de produits qui étaient attendus depuis assez longtemps. Alors il y avait pas mal de rumeurs qui tournaient autour des soi-disant annonces de cette conférence. On parlait d'un iPad mini, on parlait d'un Mac mini, on parlait d'un nouveau MacBook Air, on parlait aussi d'un probable rafraîchissement des AirPods. Alors certaines rumeurs se sont avérées vraies. Pour d'autres, il va falloir attendre encore certainement, je pense, la keynote de mars ou les keynotes de début d'année 2019. Petit rappel, cette keynote s'est passée à New York, à l'Académie de musique de Brooklyn. Je pense que c'est pas anodin si Apple a choisi cet endroit. On sait qu'Apple généralement essaye quand même de, enfin c'est assez rare qu'ils font des keynotes sur la côte est des États-Unis. Généralement, ils essayent de rester sur la côte ouest et de rester près du siège social. Mais on avait eu droit, je sais plus si c'est il y a un ou deux ans exactement, à la présentation des iPads, pareil, dans une école à New York. Donc voilà, c'est quand même assez rare pour être noté. On s'attendait à beaucoup de choses, et qu'est-ce qui a été présenté? Donc ils ont commencé la keynote en présentant le renouvellement du MacBook Air. Le MacBook Air, on sait, c'est une machine qui commençait quand même à dater un peu. C'était la seule machine dans le catalogue d'Apple qui avait pas d'écran Retina. Donc voilà, il y avait beaucoup de personnes, et c'est une machine qui est très utilisée. Enfin, moi je sais que, genre, on en a une à la maison, c'est une machine qui tient réellement la route au niveau batterie. C'est une machine qui est assez performante si vous avez pas des gros travaux à faire dessus. Donc c'est clairement une machine qui est beaucoup utilisée. Et c'est une machine qui était très attendue. Donc ils ont annoncé un nouveau MacBook Air. Alors certains s'attendaient à un design plus près des MacBooks, c'est-à-dire assez fin, très plat, très fin. On reste quand même beaucoup dans le design de l'ancien MacBook Air, c'est-à-dire plus large d'un côté que de l'autre. Il a encore été un peu aminci au niveau de l'épaisseur, mais globalement, ça reste quand même pas mal dans le design du premier MacBook Air. Nouveauté cette année, on a droit à trois couleurs. Donc il y a le gris normal, le gris sidéral et l'or. Je pense que c'est quand même une chose qui se généralise sur toute la gamme, à part le MacBook Pro qui n'existe pas en couleur dorée. Maintenant, toute la gamme essaye de prendre ces trois couleurs et les enfin de les mettre un peu partout, qui permet d'avoir une gamme assez unifiée. Autre chose, sur le MacBook Air d'ancienne génération, on avait un bord assez épais, faut bien le dire, gris en métal sur l'écran, qui était assez disgracieux et qui faisait un peu vieillot par rapport aux nouveautés de la gamme, que ce soit le MacBook ou le MacBook Pro. Là, vu qu'on est passé sur un écran Retina, aïe, enfin, ces bords ont disparu. Maintenant, on a droit à un bel écran comme sous tout le reste de la gamme des ordinateurs d'Apple. Un écran quasi bord à bord. C'est vrai que, contrairement aux iMac qui ont encore un bord très proéminent, la gamme des portables d'Apple, le bord est, on pourrait faire bien mieux. Il y a certains ordinateurs qui font quasiment du bord à bord, mais bon, c'est quand même pas gênant, et c'est des écrans qui sont d'une super bonne qualité, donc c'est quand même une bonne chose. Autre chose qui est arrivée sur ce nouveau MacBook, c'est le Touch ID. Alors, je pense qu'ils auraient pu clairement mettre le Face ID, et je pense que ça se généralisera sur la gamme des ordinateurs avec le temps. Mais là, il faut pas oublier que le MacBook Air reste quand même dans la gamme d'Apple, justement un entrée de gamme. Donc, je pense qu'ils réservent les grosses technologies, les nouvelles technologies présentes dans l'iPhone. Enfin, présenté plutôt dans l'iPhone en premier, il les réserve quand ça arrivera sur les ordinateurs. Ça arrivera, je pense, plus sur le haut de gamme que sur l'entrée de gamme. Autre chose qui a été améliorée, le trackpad. On bénéficie maintenant du trackpad des MacBook Pro, des MacBooks, c'est-à-dire un trackpad, très large et très, comment dire, très facile d'utilisation, très agréable d'utilisation. Donc, franchement, ça, c'est une super bonne chose. Les prix du MacBook Air. Alors, le MacBook Air commence à 1 349 €. C'est un peu plus cher que l'ancienne gamme, mais on reste sur des prix d'entrée de gamme sur le catalogue d'Apple. Pour un ordinateur qui, comme je vous le dis, est très performant. Enfin, nous, on en a un et c'est un très très bon ordinateur. Donc voilà, ça c'était pour le MacBook Air. Après, ils ont présenté le Mac Mini. Le Mac Mini, alors c'est une machine, moi qui m'a. Alors je sais que c'est une machine qui est très aimée par toute la communauté, mais moi c'est une machine qui m'a clairement jamais intéressé. Peut-être parce qu'il fallait mettre un écran externe à côté, parce que c'était pas un tout en un, mais je sais que c'était une machine qui était quand même très 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 attendue par la communauté. Beaucoup attendaient le retour d'un Mac Mini qui serait modulable, qu'on pourrait upgrader nous-mêmes en remettant de la RAM, en remettant des disques. Et clairement, chez Apple, ça c'est fini, ça ne se verra plus, à part peut-être le nouveau Mac Pro, mais il va falloir voir le design qu'ils ont, ils l'avaient dit, qui referait un Mac Pro pour les professionnels, qui serait beaucoup plus customisable, entre guillemets. Mais pour le Mac Mini, ça reste un ordinateur qui est plus grand public, donc Apple n'a pas envie que les gens aillent fouiller dedans et upgrader l'ordinateur pour que l'expérience utilisateur ne soit plus la même que comme eux ils l'ont perçu. Donc voilà, alors j'ai suivi, mais sans plus, comme je vous le dis, c'est pas un ordinateur qui m'intéresse réellement. Les nouveautés, alors bon, nouvelle couleur pour s'unifier avec la gamme, un gris sidéral comme les Mac Pro, comme un peu plus clair que l'Apple TV, mais comme les iPads, comme les téléphones. Il est plus puissant, bien sûr. Le processeur pourra aller juste, enfin, on pourra l'upgrader jusqu'à 6 cœurs d'origine quand vous l'achèterez. Et pareil, la RAM jusqu'à 64 Go. Alors c'est pas les premiers, mais c'est le maximum qu'on pourra mettre sur le Mac Mini. Le premier prix du Mac Mini est à 899 €. Par contre, j'ai regardé ce matin sur le site d'Apple et les options sont clairement très chères. J'ai pas totalement tout regardé, mais je sais que le stockage, si on veut monter à 1,5 Tera de stockage, c'est 1 500 € de plus. Donc clairement, c'est très 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 cher. Et je pense que pour ce prix-là, il y a d'autres machines. Si encore il était customisable et qu'on pouvait acheter du matériel, pas forcément de chez Apple, que ce soit de la RAM ou du stockage, si on pouvait l'acheter ailleurs et l'upgrader dans le Mac Mini, là oui, peut-être ça serait intéressant. Mais là, vu que c'est des options qu'il faut prendre directement à l'origine, et ça, on sait que le stockage chez Apple est une chose qui vaut extrêmement cher. Donc, je pense pas que ce Mac Mini soit vraiment une très bonne occasion, à moins que vous en ayez vraiment une utilité spécifique. Mais à part ça, je pense qu'il y a certainement d'autres ordinateurs dans la gamme qui seront bien meilleurs et bien plus faciles à paramétrer et beaucoup moins chers, je pense. Voilà, pour le Mac Mini, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Comme je dis, c'est pas un ordinateur qui m'intéresse réellement et je pense pas qu'il va intéresser grand monde. Après, ils sont passés sur les Apple Store. Alors, les Apple Store, comme d'habitude, c'est Angela Ahrens qui est venue sur scène, qui a fait tout un speech sur les Today at Apple, c'est-à-dire les, je sais plus trop comment c'est le mot, mais les ateliers, oui, qui sont possibles de faire chez, enfin, dans les Apple Store. Alors c'était un discours qui a duré une dizaine de minutes, qui n'était pas forcément très intéressant parce que c'est un discours corporatif qu'on entend à toutes les keynotes. Une chose qu'a noté dans son discours, c'est qu'on a vu les premières images de l'Apple Store des Champs-Élysées, que ça soit extérieur ou intérieur, et clairement ça a l'air d'être un Apple Store qui a l'air d'être franchement très beau de l'intérieur. Alors à voir quand il va être ouvert. Mais ça fait partie des derniers designs d'Apple Store et je pense vraiment que celui-là sera très très classe. Voilà, c'est à peu près tout pour le discours d'Angela Ahrens, qui est le même à toutes les keynotes quasiment, donc rien de très intéressant, enfin c'est intéressant mais rien de très novateur en tout cas. Alors par contre, maintenant on va passer à, pour moi, ce qui est la grosse partie de la keynote et ce qui est le plus intéressant, ce qui a été le plus intéressant de cette keynote du 30. C'est la présentation des nouveaux iPad Pro. Vous le savez sûrement, moi je suis passé depuis quasiment un an et demi, presque deux ans, tout le temps sur l'iPad Pro. Je n'ai plus d'ordinateur, je n'utilise que mon iPad Pro pour faire absolument tout, que ce soit de la retouche photo, que ce soit pour enregistrer ce podcast et pour tout un tas de choses, pour écrire, pour dessiner. Enfin, j'utilise mon iPad pour absolument tout. Et j'en suis très content, je l'avais déjà dit dans pas mal d'épisodes. Et j'attendais clairement ces nouveaux iPad Pro. J'attendais beaucoup de choses de ces nouveaux iPad Pro pour qu'ils soient encore plus utilisables et par les gens comme nous qui créons du contenu, mais aussi par des professionnels. Et là, je pense clairement, alors ça ne reste que mon avis, hein, bien sûr, ne me trollez pas tout de suite sur les réseaux sociaux, mais ça ne reste que mon avis, mais là, je pense qu'Apple vient de sortir le game changer au niveau des tablettes et de l'ultra mobilité, on va dire, de l'ultra mobilité pour les créateurs de contenu. Je pense que ce que Steve Jobs appelait l'ère post-PC avant sa mort et quand l'iPad a été dévoilé, le premier iPad, je pense que là on commence réellement avec cet iPad à toucher du doigt à l'ère réellement post-PC. Je pense qu'avec cet iPad, alors bien sûr, l'iPad avec pas mal d'options, je vais revenir dessus, mais avec cet iPad, beaucoup, beaucoup de gens, créateurs de contenu, que ça soit des blogueurs, des podcasteurs, des photographes, enfin, toutes ces personnes qui font, entre guillemets, du contenu ou du contenu artistique, pourront clairement se passer d'un Mac, même un MacBook Air ou un MacBook, qui sont des MacBooks ultra portable, mais là je pense qu'on peut encore passer un cap et être encore plus portable, plus petit, avec tout autant de puissance et on peut faire tout autant de choses. Donc le nouvel iPad se décline maintenant. Alors vous saviez que dans l'ancienne gamme, les iPads c'était 10,5 pour l'iPad Pro ou 12,9. Maintenant on est passé à 11 pouces et 12,9 pouces, sachant que sur le nouvel iPad, il n'y a plus de bouton Touch ID. L'iPad est en quasiment borderless. Il reste encore une bordure, mais qui est quand même de façon obligatoire sur un iPad, parce qu'il faut pouvoir mettre ses doigts. C'est pas comme un téléphone. On tient pas un iPad comme on tient un téléphone, donc il faut quand même qu'il y ait une petite bordure. Mais bon, au moins là, le bouton a disparu. On a maintenant la technologie Face ID qui est, et c'était une rumeur qu'on entendait depuis pas mal de mois et que tout le monde se demandait si l'iPad pourrait être utilisable, enfin pourrait être déverrouillé avec Face ID en portrait, en paysage. Apple a même fait mieux que ça. L'iPad est déverrouillable en portrait, en paysage, mais sur les quatre côtés. C'est-à-dire que vous teniez votre iPad dans n'importe quel sens, vous pourrez le déverrouiller. Et ça, c'est clairement, je pense, une avancée qui est très importante, parce que un iPad c'est quelque chose qu'on utilise la plupart du temps chez soi, dans son canapé, dans des positions, ou même dans son lit, dans des positions où il fallait que cette technologie soit, c'est pas comme un téléphone, il fallait que cette technologie soit implémentée dedans pour que ça soit clairement utilisable et que ça soit pas un frein à l'utilisation. Donc comme je disais, 11 pouces et 12,9 pouces. Le 11 pouces, bah, c'est clairement le 10,5, c'est la taille du 10,5. Mais sachant qu'on a enlevé le bouton, eh ben, on gagne en surface d'affichage. Par contre, le 12,9 pouces, donc on enlève aussi le bouton, on gagne en surface d'affichage, pardon. Mais là, l'iPad en lui-même, le corps de l'iPad en lui-même a été raccourci. Donc c'est une bonne chose. On a exactement le même affichage que sur le... Enfin, autant d'affichage que sur le 12,9 de l'ancienne génération, en ayant un corps d'iPad beaucoup plus petit. Ce qui est clairement un avantage, plus léger, plus petit, plus facile de mettre dans un sac. Donc c'est clairement une bonne chose. Alors, pour moi, les nouveautés qui font que ça va, je pense, devenir un game changer sur les tablettes, enfin sur l'ultra mobilité, sur la création en ultra mobilité, pardon. Sur cet iPad, alors c'est pas d'origine, hein, mais c'est des options que vous pouvez rajouter, bien sûr le prix augmente, mais sur cet iPad, on peut aller jusqu'à 1 Tera de stockage. 1 Tera de stockage, c'est quand même déjà pas mal pour les créateurs de contenu qui ont besoin d'avoir beaucoup de stockage, qui stockent beaucoup de choses, que ça soit des images, que ça soit des photos, que ça soit tout un tas de choses, de la musique. C'est quand même bien d'avoir du stockage pour des personnes qui vont avoir 1 Tera de stockage et qui ont une option 2 Tera de stockage sur iCloud. C'est clairement, enfin voilà, on n'a plus besoin d'avoir de disque dur à côté. Enfin, on peut emmener que son iPad et on a 3 Tera. Avec cette option, on a 3 Tera sur nous. Je pense que c'est clairement, clairement assez. Autre chose qu'ils ont changé. La connectique devient USB-C, enfin. Alors pourquoi je dis enfin ? Le Lightning est une très bonne connectique, mais le fait que ça passe en USB-C va apporter pas mal d'avantages. Des avantages comme ben, le fait de pouvoir le brancher à un écran externe pour les gens qui font de la photo, pour les gens qui font de l'audio, puis pour tous les créatifs même. C'est quand même une bonne chose quand vous arrivez à la maison de pouvoir le brancher à un écran externe et de pouvoir travailler sur un écran encore beaucoup plus grand. Le fait que ça soit en USB-C aussi, vous pouvez brancher votre appareil photo directement dessus et bah, ça sera plus facile. On sera plus obligé de se trimballer le dongle Lightning carte SD. C'est pas un dongle qui est très lourd, mais bon, c'est toujours une chose à avoir en plus et qu'on peut risquer d'oublier quand on part en déplacement. Donc c'est bien de ne plus l'avoir et de pouvoir clairement brancher tous ces devices, tous ces accessoires directement sur l'iPad. Et ça, l'USB-C va l'apporter. Autre chose qu'ils ont changé, le pencil. Le nouveau pencil est arrivé. Alors je vais pas faire longtemps sur le pencil, mais il y a quand même des petites nouveautés. On n'a plus le petit bouchon sur le pencil qu'on avait à une époque et qui était clairement que beaucoup de gens ont perdu parce qu'il s'enlevait ou machin. C'est maintenant le pencil est tout droit, c'est un stylo et ils ont implémenté un peu comme sur le pencil de la surface, une surface tactile que vous pouvez tapoter qui va amener des options à l'écran. Ça, c'est aussi une bonne chose. C'est des petites nouveautés, bien sûr, mais c'est des petites nouveautés quand vous travaillez avec un iPad, quand vous créez du contenu avec un iPad, qui peut vous faire gagner des secondes, des millisecondes, mais au fur et à mesure, ça peut vous faire gagner quand même pas mal de temps. Autre chose avec le pencil, c'est que maintenant on n'a plus besoin de le brancher pour le recharger. Maintenant, comme sur les surfaces, vous le collez, il va magnétiquement se coller sur le côté de l'iPad et se recharger tout seul par induction. Et ça, franchement, c'est une très 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 bonne chose. Autre chose qui a été implémentée sur l'iPad, c'est le chargeur. On est passé maintenant à un chargeur 18 watts, ce qui permet d'avoir une charge rapide, du moins un peu plus rapide que sur les derniers iPad Pro, et ça, franchement, c'est une bonne chose. Alors, au niveau des prix, le 11 pouces en 64 Go commence à 899 €, pour aller jusqu'à 1 Tera à 1729 €. Le 12,9 pouces, quant à lui, commence à 1119 € en 64 Go pour aller jusqu'à 1949 € en 1 Tera, ce qui est cher, je vous l'accorde. Mais si vous le mettez à côté d'un MacBook Pro d'entrée de gamme, d'un MacBook Air haut de gamme qui va faire autant de choses et peut-être même un petit peu moins, j'ai pas l'impression que ça soit réellement très cher. Donc comme je vous le dis, pour moi c'est réellement le meilleur iPad qui a jamais été sorti. Là, pour tout ce qui est créateur de contenu, comme je le disais, blogueur, podcasteur, photographe, pour tout un tas de gens, ça va être quasiment la machine parfaite. Donc je pense là qu'Apple était déjà bien en avance au niveau des tablettes, mais là je pense qu'ils remettent encore un cran au-dessus à la Surface Pro, qui clairement maintenant est dans la même gamme d'appareils. Donc je pense qu'ils remettent avec le Face ID, avec tout ça, un gros coup à la Surface Pro. Et ils restent, parce que j'allais dire ils deviennent, mais non, ils restent la meilleure tablette professionnelle entre guillemets du marché. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur la keynote. Autre petite chose sur laquelle ça va aller très vite, sur laquelle je voulais revenir. Là, vous le savez certainement, ces derniers jours, depuis la keynote, on a eu droit à pas mal de mises à jour. Alors, juste après la conférence, on a eu droit à la mise à jour de l'iPhone, la 12.1. Et puis là, tout au fur et à mesure des 2-3 jours qui viennent de passer, on a eu droit à la mise à jour de l'Apple Watch et à la mise à jour de l'HomePod. Et si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe sur les sites internet, vous savez que ça soit la mise à jour de l'Apple Watch et la mise à jour du HomePod se sont assez mal passées. La mise à jour de l'Apple Watch a carrément été retirée pour un bug. Certaines montres se briquaient quand on essayait de faire la mise à jour. Quant à HomePod, moi j'ai essayé de la faire hier soir, elle s'est fait, mais avec bien du mal. Donc, au niveau des mises à jour, Apple en ce moment, c'est clairement pas ça. Je pense qu'il y a un processus de vérification de mise à jour qui est clairement à revoir chez Apple. Voilà, c'était le petit laïus que je voulais faire sur les mises à jour, parce que clairement là en ce moment c'est assez marquant, chaque mise à jour, ces problèmes. Je pense que c'est bon d'être noté. Voilà, j'ai déjà été pas mal long pour aujourd'hui. Je vais pas faire plus long comme d'habitude. Si vous voulez réagir, et j'espère que vous réagirez, parce que j'aime bien quand les gens réagissent, dites-moi ce que vous avez pensé des nouveaux produits qu'Apple a présentés. Dites-moi si c'est des produits qui vous intéressent, si vous n'êtes pas du même avis que moi. C'est bien d'avoir un débat là-dessus. Donc comme d'habitude, vous pourrez trouver tous les liens vers mes réseaux sociaux pour interagir avec moi dans la description de cet épisode. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire sur iTunes. Ça aidera le podcast à remonter dans les classements et à se faire connaître.